Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'avez entendu tout à l'heure quand je disais du mal de vous ?
Oui.
Je ne le pensais pas. Ce que je crois sincèrement, c'est que je suis heureux de vous retrouver, que je vous souhaite une belle année et que, voilà, cette année a une heure qui n'est pas habituelle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si on vous demande pourquoi cette année je ne suis pas à 11h, vous répondrez qu'avec sa générosité habituelle, il a donné son créneau à Wajdi Mouawad, qui fera cours ici à partir du 6 février, je crois. Enfin, en tout cas, sa leçon inaugurale, c'est le 6 février. Le sexe du pouvoir, donc. Voilà ce qui va nous réunir cette année. Dans la première saison de la série télévisée américaine House of Cards, produite par Netflix à partir de 2013, l'ambitieux Frank Underwood, joué par Kevin Spacey, tente de manipuler une jeune journaliste, Zoe Barnes, pour nuire à ses adversaires politiques à Washington. La manipulation passe évidemment par une érotique du pouvoir menant insensiblement de la séduction amoureuse à la prédation sexuelle. Et ce glissement pénible a lieu au 9e épisode, lors d'une scène de sexe triste et brutale dans une sordide chambre d'hôtel. C'est à ce moment-là que Frank Underwood lâche à celle qui est devenue sa proie « Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power. » Tout dans le monde est affaire de sexe, sauf le sexe, qui est affaire de pouvoir. Les mots sont ciselés. La formule cinglante, elle frappe d'évidence, avec, oui, cette force de frappe caractéristique de ce pathétique politique, puisqu'on parle de théâtre, du théâtre classique, où l'on frappe les esprits comme on frappe la monnaie, sauf qu'ici, on serait plutôt du côté du héros cornélien, qui, assujetti par éblouissement unanime, plutôt de ce côté-là que du côté de l'héroïne racinienne, qui, elle, adoucit la force de son éclat par un charme qui, lui, ne cogne pas. Et donc, la question, c'est, allons-nous consentir à être du côté de ce cogneur ? C'est toute la question. En tout cas, la formule incontestablement fait mouche. On la prendrait volontiers pour maxime d'une philosophie déniaisée des rapports entre sexualité et pouvoir. D'où vient-elle ? Underwood se contente de dire « A great man once said, un grand homme un jour a dit ». Sur les forums d'Internet, on a tôt fait étrangement d'attribuer la formule au sulfureux Oscar Wilde. Le pli a été pris, et c'est sous ce nom qu'on la trouve ordinairement, même si aucune preuve ni source précise ne vient justifier ce rapprochement surprenant. En réalité, je pense que cette citation apocryphe d'un philosophe masqué me semble plutôt une formule de synthèse avant ChatGPT, inventée par ces scénaristes surdiplômés des séries politiques américaines qui contribuèrent, dans les années 2010, à remettre en circulation la langue du machiavélisme, mais la langue du machiavélisme ordinaire, pour dénoncer, prétendait-il, mais peut-être aussi pour justifier, en nous y acclimatant insidieusement, sous couvert de nous faire rire ou de nous indigner, pour dire, en somme, le cynisme et la brutalité du politique. On pense évidemment à la version médiévalisante de House of Cards, qu'est Game of Thrones, où ce n'est pas seulement la phraséologie, mais bien toute l'intrigue qui est de bout en bout machiavélienne. Puisque personne dans Game of Thrones ne songerait à espérer un salut dans ce retour à une souveraineté apaisée qui est toujours le troisième temps du cycle providentiel de l'héroïque fantasy. Vous savez, d'abord, on fait visite aux puissances du passé, ensuite on fait la guerre, enfin on retourne chez soi. Non, rien de tel ici. Le temps est sorti de ses gonds. Il est chassé toujours plus loin par l'arrivée de l'hiver, cap au pire, puisque, je le disais ici même en 2015, et nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2025, winter is coming. Et pourquoi cela? Eh bien parce que les puissants ne s'arrêtent jamais d'eux-mêmes. Ils en font toujours trop. Ils vont à leur perte, mais cette perte est aussi la nôtre, car ils suivent aveuglément ce fétiche où le pouvoir se confond avec son propre désir. Ils finissent toujours par ressembler à ces petites fatalités têtues qui se croient des providences, comme le dit Victor Hugo. Appelons cela, en effet, le sexe du pouvoir. Alors, ça pourrait commencer comme ça, en effet, vilainement, dans une minable chambre d'hôtel américaine, avec ce cogneur de Frank Underwood, cette caricature obscène de la force en politique, jouée par un acteur, Kevin Spacey, qui fut plus tard écarté par Hollywood pour abus sexuels, dans l'effet de souffle de l'affaire Weinstein. Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power. Il faudrait que ça commence comme ça, afin qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions. Rien de glorieux, en effet, dans cette formulation qui s'est imposée à moi, dont la simplicité m'a saisi, mais qui parfois me fait un peu honte, le sexe du pouvoir. Car je crains toujours qu'on la prenne avec trop de grandiloquence ou de flamboyance, à la manière que suggère ce livre de Pascal Quignard, Le sexe et l'effroi, Le sexe et l'effroi, qui, c'est vrai, me fit grande impression lors de sa parution en 1994, donc il y a 30 ans. Parce que Quignard y dévoilait la fascination du fascinus, le sexe dressé des Romains, qui laisse celui ou celle qui le regarde, qui le contemple, qui ne peut plus s'en détacher, qui le laisse comme interdit, comme immobilisé, mystérieusement. Et pourtant, c'est une petite chose que le sexe du pouvoir. Bien ridicule, bien risible. Il faudrait pouvoir rire de tout cela, du rire joyeux de Paul Veyne, étudiant l'élégie romaine, ou du rire plus gras de celui que Paul Veyne comprenait si mal, d'ailleurs, Machiavel, lorsque le secrétaire florentin se faisait, avec la grivoiserie, une arme féroce contre la méchanceté des pouvoirs injustes. Oui, il faudrait faire cela. Ou alors, il faudrait se souvenir de la leçon des Grecs, puisque le fascinus romain traduit ce phallus qui ne prétendait, lui, en Grèce, ni à la gravité, ni à la grandeur. Qu'il me soit permis aujourd'hui de saluer la parution, ces jours-ci, dans la collection La librairie du XXIe siècle, qu'il dirigea jusqu'à sa mort, du livre posthume et inachevé, en fait c'est le livre de sa vie, il y a travaillé toute sa vie, de Maurice Hollander. Ce livre de Maurice Hollander s'appelle Priap, le phallocrate impotent. Priap, le fils d'Aphrodite et de Dionysos. C'est un dieu, Théos, oui, c'est un dieu, mais c'est un petit dieu, un dieu mineur, un tard venu dans la mythologie grecque. Il apparaît seulement à l'époque alexandrine. Il ne doit sa renommée véritablement qu'à la période hellénistique et romaine. Si les Grecs le trouvent bien laid, c'est qu'il est amorphos, privé de forme. Son membre viril, exorbitant, toujours rigide, le rend inapte à la séduction, qui repose, au contraire, sur la mesure et la transformation. Or, sans mouvement, pas de sensibilité. Sans sensibilité, pas de réciprocité. Et sans réciprocité, pas de sexualité. Priap ne fascine donc personne. C'est lui qui est immobile, qui est taillé d'une seule pièce, c'est-à-dire en fait mal taillé, dans un tronc de vieil arbre dégrossi au hasard, précise Columel. Il reste là, bloqué, rigidement, sur place, planté comme un piquet. Or, l'organe sexuel ne saurait être invariable, puisque Aristote, dans « De la génération des animaux », le définit précisément par sa mobilité. S'il ne peut, je cite, « augmenter et diminuer de volume », c'est qu'il est atteint d'une altération morbide qui est donc une maladie qui va prendre le nom de notre petit dieu, priapisme. Bref, si Priap est le petit dieu des jardins, il n'effraie personne, pas même les oiseaux. C'est un piètre épouvantail et toute l'antiquité gréco-romaine rit de lui. Rien de commun ici, avec le rire que Bobo, la figure orphique qui expose, elle, son sexe comme une vulve mystique, disait l'anthropologue Georges Devreux, rien de commun avec le rire que Bobo fait naître chez sa mère, Déméter. Car nous sommes là dans le contexte des mystères d'Éleusis, où la parole est efficace à mesure de sa rareté. À l'inverse, Priap est bavard, mais sa parole s'épanche en pure perte, comme sa semence. Il ne cesse de parler, mais il ne convainc personne. Sans doute aussi parce qu'il ne sait plus vraiment qui il est. Tous les dieux ont un attribut qui les rend identifiables, mais celui de Priap est tellement commun. Un membre viril hyperbolique, comment en tirer quelque fierté quand tant de satyres et de silènes partagent avec lui ce trait ityphalique? Loin de faire sa singularité, cette verge est si banale qu'elle est comme l'arbre qui cache la forêt. C'est à cause d'elle qu'on confond celui qui l'arbore comme un trophée avec tous les autres, qui en plus ne sont même pas des dieux. Et au total, par un retournement ironique de l'idée qu'on se fait du sexe du pouvoir, ce phallocrate, aussi piteusement infertile qu'il est sottement agressif, Priap devient la figure de l'impotence. Autrement dit, le gouvernement priapique, empli de sa suffisance, n'incarne rien d'autre qu'une impuissance bavarde et obscène. Que ce petit dieu ridicule veille sur nous cette année pour dégonfler durant ces 10 séances de cours ce que leur formulation, le sexe du pouvoir, peut comporter de généralités vagues et souveraines. Aussi faudrait-il du même élan et avec la même énergie s'opposer au tout politique et au sexe roi. Au tout politique, puisque la critique anti-totalitaire du fameux slogan de 1968 « Tout est politique » a été conduite au nom de la révolte des êtres parlants contre ce qui s'ordonne depuis l'unité du tout, qu'il soit le tout tendant vers l'un que les Grecs appellent « katholou » ou qu'il soit le tous converti en un que les Romains appellent « universus ». Mais dès lors qu'on ne croit plus à une Église catholique et universelle, la politique se comprend comme le lieu d'articulation du non-un. Alors, on peut parler de politique de l'amour, par exemple, car le plus intime se laisse traverser corps à corps par le pouvoir. Ou, pour le dire avec Jean-Luc Nancy, s'il n'y a plus dans nos existences de sphère non-politique, au sens d'une sphère privé qui s'oppose à la sphère publique, c'est parce que, je le cite, « toutes sont partagées » dans le double tranchant du terme. Ce partage du tout politique doit pareillement traverser ce roi de rien qu'est le sexe roi, le sexe souverain. Voilà pourquoi nous cheminerons cette année, une fois encore, avec Michel Foucault, dont la publication des cours donnés à l'Université de Clermont-Ferrand en 1964 a montré que dès cette période, c'est-à-dire 12 ans avant le premier volume de l'histoire de la sexualité, Il considère déjà que le sexe est, avec l'aveu, avec la mort, avec la folie, l'un des objets dont l'archéologie permettrait de sortir la philosophie et les sciences humaines de ce qu'il appelle son sommeil anthropologique. Mais il faudrait alors comprendre que ce que Foucault appelle la science des partages, s'attachant donc aux négativités pour se déprendre du pouvoir, n'a nullement pour objectif de dévoiler une vérité de nature qui, une fois libérée, accéderait enfin à la pleine lumière du langage. Au contraire, et je cite ici son article « D'hommage à Georges Bataille » paru en 1963, donc tout ça est encore très tôt, paru dans Critique, sous le titre « Préface à la transgression », ce qui caractérise la sexualité moderne, ce n'est pas d'avoir trouvé de Sade à Freud le langage de sa raison ou de sa nature, mais d'avoir été dénaturalisé, jeté dans un espace vide où elle ne rencontre que la forme mince de sa limite. Dès lors, et cela, ce mouvement est plutôt documenté par le lent et passionnant chemin critique qui l'éloigne à partir de 1976 de la première formulation de sa critique du sexe roi dans la volonté de savoir, lui faisant remanier de fond en comble le plan annoncé des différents volumes de son histoire de la sexualité, comme quoi il ne faut jamais annoncer son plan à l'avance. Dès lors, donc, Michel Foucault déplace son enquête vers la généalogie des savoirs sur la sexualité, cette scientia sexualis, si bavarde également, mais pas seulement depuis le XIXe siècle, comme il le pensait alors, mais depuis les aphrodisias des Grecs, comme il le découvrira ensuite. C'est le pouvoir qui déclenche ce flot de discours. C'est le pouvoir qui fait de l'homme une bête d'aveu sous les coups du confesseur. Alors, ne croyons pas que le sexe gît au fond de nous, naturellement, éternellement, comme une vérité première et fondamentale. Ça, c'est la critique implicite de la psychanalyse par Foucault. Une vérité qui n'attendrait que l'affaiblissement du pouvoir répressif pour se dire en toute liberté. Ça, c'est sa critique de l'hypothèse répressive de Reich, de Marcuse, etc. Non, c'est tout le contraire, en somme, puisque si le pouvoir est difficile à contrer, ce n'est pas parce qu'il réduit la parole transgressive au silence, mais au contraire parce qu'il ne cesse de produire des discours, et des discours entraînants, et des discours séduisants qui nous enveloppent, qui nous traversent, qui nous divisent. Et dès lors, on comprend qu'il n'y a pas plus de sexe roi que de sexe vérité. Autrement dit, que le sexe ne dit rien de la vérité nue du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faudrait abandonner cette formulation décidément trop abrupte, le sexe du pouvoir. Si vous êtes d'accord, on peut encore changer, hein, il est 14h18. L'abandonner complètement parce qu'elle nous ferait espérer des effets de vérité massifs en nous soumettant à ce que Foucault appelait justement dans la volonté de savoir cette austère monarchie du sexe au point de nous vouer à la tâche indéfinie de forcer son secret et d'extorquer à cette ombre les aveux les plus vrais. Je ne le crois pas. On va tenter quand même, si du moins on accepte de suivre la piste des problématisations foucauldiennes, on va tenter de voir comment elles sont susceptibles d'ouvrir, et ce jusqu'aux épistémologies féministes de la pensée contemporaine, des brèches. C'est dans leur sillage que je tenterai de me placer, en y cherchant non pas une doctrine, mais un vaste corpus, riche, engagé, contradictoire. Un corpus d'outils critiques, ce que Foucault appelait, en ignorant évidemment rien de la connotation queer de l'expression, ces petites boîtes à outils. Dès lors qu'on accepte ce foisonnement hétérogène, ce mouvement, cette variabilité, le contraire, vous l'avez compris, du priapisme théorique, qu'on accepte tout ça, des épistémologies féministes de la pensée contemporaine, alors s'ouvre généreusement le champ des possibles de nouvelles problématisations, c'est-à-dire de nouveaux assauts contre la fausse évidence d'un ordre du monde naturalisé. Je suivrai donc ici volontiers Elsa Dorlin lorsqu'elle écrit dans son livre « Sexe, genre et sexualité » dont la première édition est de 2008, je crois, et la dernière 2023. Le sexe désigne communément trois choses. Le sexe biologique tel qu'il nous est assigné à la naissance, sexe mâle ou femme, les normes, les rôles, les expériences, les assignations sociales qui sont censées lui correspondre, qu'on désigne communément par genre, enfin, la sexualité, c'est-à-dire le fait d'avoir une sexualité ou de faire du sexe. C'est en problématisant ces trois acceptions mêlées du sexe, sexe, genre, sexualité, que les pensées féministes produisent leur savoir critique dans un projet politique global d'émancipation. Je ne me donnerai évidemment pas ici le ridicule de prétendre statuer sur une définition unique qu'il conviendrait de donner au genre. Je me permets seulement de rappeler qu'il n'y a de théorie du genre que pour ceux qui font profession d'en avoir peur ou de feindre de s'en effrayer pour mieux dominer celles et ceux qu'ils fascinent. Nous sommes toujours dans le sexe et l'effroi. Les peurs que suscite ce que Judith Butler appelle dans son dernier livre traduit en français ce fantasme doué d'une puissance destructrice, ces peurs sont en soi un objet d'étude. Quant aux études de genre elles-mêmes, sur lesquelles je m'appuierai cette année, il serait sans doute assommant de prétendre les définir épistémologiquement dès cette première leçon. Alors je le ferai au fur et à mesure, hein, de nos besoins théoriques. Je me contenterai juste ici de trois brèves remarques. La première tient à l'impossibilité aujourd'hui d'établir une distinction entre sexe et genre, ou en dénaturalisant le genre, on réifierait la naturalisation du sexe. Parce que le sexe aussi a une historicité. Autrement dit, le genre précède le sexe et la sexualité précède le genre, par-delà nature et culture. La deuxième remarque, c'est que cette historicité, elle est intimement nouée à une histoire du pouvoir. Voilà ce qu'on doit retenir de la définition désormais très classique de l'historienne John Scott, celle qu'elle a donnée en 1986 dans son célèbre article « Le genre, une catégorie utile d'analyse historique ». Le genre, je la cite, est une façon première de signifier les rapports de pouvoir ou, je la cite encore, le champ premier à l'intérieur ou au moyen duquel le pouvoir se déploie. D'où, et c'est ma troisième remarque, la nécessité de penser à partir de ce que l'anthropologue française Nicole Claude Mathieu a appelé, et notamment dans son livre fondamental paru en 1991 sous le titre « L'anatomie politique, catégorisation et idéologie du sexe », les rapports sociaux de sexe. Je la cite aussi, Nicole Claude Mathieu, du fait de son importance, et ne serait-ce aussi que pour rappeler qu'il existe une généalogie spécifiquement française des études de genre, évidemment depuis le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et ce, moins pour affirmer je ne sais quel patriotisme épistémologique que pour contrer un des arguments polémiques les plus courants de la pensée réactionnaire qui fait de la lutte contre les études de genre une modalité de l'anti-américanisme. Il y aurait d'ailleurs bien d'autres références théoriques plus récentes à mobiliser, et on le fera tout au long des semaines. Mais partons de ce socle anthropologique que John Scott appelle premier, peut-être pour ne pas le dire primitif, des rapports sociaux de sexe qui provoquent l'inégalité et donc l'injustice de la division genrée des pouvoirs. Ça, c'est ce que Françoise Héritier appelait le butoir ultime de la pensée. Parce que, il ne faut pas s'y tromper, Françoise Héritier, anthropologue avec qui je voudrais désormais cheminer quelques minutes, pratiquait un structuralisme militant par lequel la mise à jour d'invariants dans l'organisation des sociétés humaines n'était nullement destinée à nous faire acquiescer à des normes inflexibles, mais au contraire à nous dessiller sur l'adhésion aveugle au monde et, par-delà, l'illusion naturaliste. Car ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes explique et relie ensemble les trois piliers lévi-straussiens des systèmes de parenté, à savoir la prohibition de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches et la reconnaissance d'une forme d'union sexuelle. Elle justifie donc la domination masculine, qui n'est pas un fait de nature, mais un artefact social. Qu'est-ce que la valence différentielle des sexes ? C'est comme une équation générale de l'esprit humain qui repose sur l'observation de données biologiques élémentaires et, par conséquent, universalisables. Elles sont si massives et si incontournables qu'elles constituent justement des butoirs de la pensée. Et celles et ceux qui ont assisté au colloque de rentrée du Collège de France Genre et Sciences, qui s'est tenu ici même les 17 et 18 octobre, en ont pris sans doute la pleine mesure. Toutes ces constantes concernent la génération et la reproduction sexuée. Du fait, par exemple, que les parents naissent toujours avant les enfants, vous avez remarqué ça. Du fait aussi qui pose une équivalence, qui n'est pas évidente, une équivalence entre antériorité et supériorité. Du fait aussi que les hommes ne font pas leurs fils, que ce sont les femmes qui enfantent les différences. Leur corps, aux femmes, a ce pouvoir exorbitant de fabriquer d'autres corps que le leur, des filles, mais aussi des garçons. Et voilà ce qui justifie la domination masculine, c'est-à-dire le désir violent de mettre la main sur le corps des filles, des sœurs et des épouses. Il faut donc, pour inférioriser les femmes, que l'antériorité de la production des différences soit attribuée au principe masculin, y compris dans la théorie de la génération. Voilà ce qui a occupé Françoise Héritier, sa vie durant. Une vie d'ethnologue africaniste de la parenté, requise à partir du milieu des années 80 par les sollicitations publiques qui accompagnaient les bouleversements des rapports entre science et société, et notamment les nouvelles techniques de procréation médicalement assistée qui ouvraient des questions éthiques, sollicitant l'expertise des sciences humaines, mais aussi, c'est vrai, poussant une partie de la psychanalyse et de l'anthropologie structurale dans des retranchements normatifs, entamant donc une régression autoritaire dont nous payons sans doute le prix politique aujourd'hui. Si Françoise Héritier entreprend d'explorer une pensée de la différence, c'est pour travailler à dissoudre la hiérarchie. Je me contente ici simplement de citer les deux sous-titres de ces deux volumes paru en 96 et 2012 de son grand essai « Masculin-féminin ». Elle s'y montre particulièrement attentive à l'anthropologie comparée des cosmologies de la reproduction humaine qui fait jouer, disons, les fluides corporels, le sang, le lait, le sperme, la lymphe, la sueur et les larmes. Il s'agit en somme pour elle de partir en quête de la généalogie imaginaire de l'article « femme » du grand dictionnaire universel du XIXe siècle, qui, à la question « En quoi consiste l'infériorité intellectuelle des femmes ? Que leur manque-t-il ?» répondait benoîtement de produire des germes, c'est-à-dire des idées. 1866, hein, c'est pas le Moyen-Âge. Or, une fois de plus, tout ça s'autorise d'Aristote. Et une fois de plus, du quatrième livre de son traité de la génération des animaux. Ça fait la deuxième fois qu'on croise Aristote aujourd'hui. Il est peut-être temps de lui régler son compte, mais encore un peu de patience. Pour Aristote, les animaux dont il parle, qui peuvent être indifféremment des animaux humains et non humains, lorsque les femmes font des enfants, d'abord, si elles en font, c'est qu'elles sont pourvues d'une matrice. Chez Platon, et notamment dans le Timée, cet utérus est un animal interne, assez agité, car secoué du désir de faire des enfants. Et toute la matière vient de là. La semence masculine, elle n'apporte aucune substance au fœtus. Elle est pure pneuma, souffle, puissance. Pourquoi ? Parce que le mâle est capable, par la force de la chaleur, de réaliser la coction du sang en sperme. La femelle, elle, voyez-vous, est plus froide, donc plus faible. Elle produit du lait, qui est du sang bien moins cuit que le sperme, du sperme altéré, amoindri. Et comme elle n'est pas assez chaude pour cuire tout son sang, elle en perd régulièrement. Et voilà la grande différence. Les femmes perdent leur sang involontairement, alors que c'est par bravoure et volonté que les hommes versent le leur. On parlait tout à l'heure du cœur cornélien qui bat et qui cogne. Mais, alors vous me direz, comment se fait-il que les hommes, si chauds, puissent engendrer des filles, et pire encore, des filles qui ressemblent à leur mère? Parce qu'il leur arrive aussi de connaître quelques faiblesses ou défaillances. Le mâle, parfois, écrit Aristote, se montre inférieur à ses tâches. Il s'en désole. Alors, le principe masculin ne domine plus. C'est-à-dire qu'il est incapable d'imposer sa propre forme. Refroidi, le sperme est moins actif, et ce qui reste, lit-on, toujours dans de la génération des animaux, ce qui reste en fin de compte, quand les mouvements se relâchent et que la matière n'est pas dominée, c'est essentiellement le caractère général, c'est-à-dire l'animal. Autrement dit, commente Françoise Héritier, la matière brute du féminin, et qui peut même s'altérer en monstruosité. Et les plus perspicaces ou les plus optimistes d'entre vous ont peut-être déjà remarqué que si les hommes étaient tous aussi vaillants qu'ils le disent, nous ne serions plus là pour en parler parce que les femmes n'engendreraient que des garçons. Voilà qui est rassurant. La survie de l'humanité est donc garantie par la faiblesse des hommes. Alors, en ethnologue, évidemment, Françoise Héritier compare cette conception aristotélicienne du sperme avec celle qui prévale chez les Inuits ou les Samos du Burkina Faso. Mais si l'on est médiéviste, on devrait plutôt suivre son évolution dans l'embryologie scolastique qui, fidèle à la tradition galénique, admet, elle, plus ou moins, l'existence d'une semence féminine, enfin plus ou moins, Maïke van den Lucht l'a montré, a montré ses dilemmes chez Albert le Grand. Les débats sont vifs parmi les médecins, mais au fond, le socle anthropologique demeure robuste. C'est bien l'esprit masculin qui apporte la chaleur de la vie et, au-delà, de la vérité du vivant. La vérité, la forme. Voilà pourquoi, chez les théoriciens politiques comme le juriste italien Balde au XIVe siècle, la matrice devient une métaphore du corps politique tout entier, justifiant l'invention de la notion de sang héréditaire au XIVe siècle, ce qui est si fondamental dans le renforcement théorique de l'ordre du lignage au Moyen Âge. Mais oui, au fait, le Moyen Âge, où avais-je la tête ? C'est ça que je dois enseigner, non ? C'est depuis le Moyen-Âge que nous devons penser le sexe du pouvoir. En quoi est-ce pertinent ? Eh bien, pour les raisons que j'ai tenté d'expliciter l'année dernière, en enquêtant sur ces langages de l'amour qui, du XIIe siècle des troubadours au XVIe siècle de Marguerite de Navarre, c'est-à-dire d'une réforme à l'autre, de la réforme grégorienne à la réforme protestante, conforme le champ du politique. D'abord, en tentant d'en établir une grammaire, et puis ensuite, dans la deuxième partie du cours, j'avais tenté de la déployer, cette grammaire, comme un outil de périodisation pour phraser et pour phaser toute l'histoire du Moyen-Âge, enfin, en tout cas l'histoire des pouvoirs au Moyen-Âge. Si je devais résumer d'une phrase ces 12 leçons sur les politiques de l'amour de 2024, je dirais qu'un système de pouvoir ne s'ordonne pas sans danger en articulant ces arts de gouverner aux arts d'aimer. Parce que seuls les dévots ou les prudes lexicographes peuvent croire que la chair et l'esprit s'opposent absolument. Au contraire, les plus savants, les plus mystiques au Moyen Âge, et notamment ceux qui commentaient le Cantique des Cantiques, savaient très bien combien cette véhémence de l'amour jette le trouble dans la charité chrétienne. Et si l'amour courtois peut souder des communautés chevaleresques, si l'amour du bien public peut souder des communautés urbaines, si l'amour du roi peut souder des communautés nationales, ce qui ressortait de notre enquête, au contraire, c'est, je crois, la force de dissension, de séparation, d'effraction de l'amour. Cette force que nous avons appelée fitna, avec le poète andalou Ibn Hazm. Voilà ce que nous avons trouvé, je crois, d'un mot l'année dernière dans les politiques de l'amour, non pas le ciment d'une société, mais le ferment de son histoire, de l'histoire de ses transformations, du fait même que l'histoire soit possible. Et d'ailleurs, dès la première séance, nous l'avons fait en regardant des objets renversants. Par exemple, celui-ci que je voulais vous faire voir à nouveau pour rendre hommage à celle qui en fut l'historienne puissante et généreuse, Christiane Clapiche-Zuber, et qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois. C'est un plateau d'accoucher figurant, vous en souvenez peut-être, une Vénus qui, lovée dans sa mandorle, éclabousse d'une beauté rayonnante ses beaux chevaliers qui en restent littéralement sur le cul, dans les fougères. C'est de son sexe qu'elle darde et qu'elle dompte ses prétendus héros, non pas de son fascinus, mais de son sexe, ce sexe qui n'en est pas un, pour le dire avec Lucie Rigouet, l'autre sexe du pouvoir, donc, qui n'est d'ailleurs ni autre, ni faible. Nous l'avons admiré sans être dupe, car cette Vénus puissante mais vulnérable, épinglée au ciel comme une pin-up, si on adopte le point de vue de l'accouchée, qui la voit de biais, allongée, épuisée, elle dévoile avec amertume de quelle peine, de quelle souffrance se paye ordinairement ce renversement d'une image de gloire, et ce, pour le plus grand plaisir et pour le plus grand pouvoir de l'ordre des pères. Tout donc est affaire de regard dans ces histoires d'amour, c'est-à-dire de contamination de la maladie d'amour, de cette folie qui n'est pas toujours douce lorsqu'elle conjoint, comme ici, la tendresse et l'empoignade, la pudeur et la sauvagerie. Voilà pourquoi ce dessin sommet l'affiche de l'année dernière. Et pour respecter la tradition, je commenterai également celle de cette année, qui lui est strictement contemporaine. On est toujours dans les années 1380. Cette image, qui, j'en suis certain, vous a tellement captivé qu'elle vous a amené jusqu'ici. Mais pour comprendre le passage de l'un à l'autre, partons d'un autre objet, d'un objet qui est entré en 2007 dans les collections du musée de Cluny, puisque c'est avec le musée de Cluny qu'on a commencé cette année le séminaire sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est un coffret de petite dimension, hein, qui fait 25 cm de long pour moins de 10 de hauteur, qui est composé de plaques d'ivoire d'éléphant et qui est un chef-d'œuvre de l'art raffiné des ivoiriers parisiens des années 1310 travaillant pour les tables princières. Et je dirais que tout le cours de l'année dernière aurait pu se dire en tournant autour de ce coffre. Les thèmes des scènes sculptées sont littéraires et renvoient à l'amour courtois. Le couvercle, par exemple, figure l'attaque du château d'amour. Deux chevaliers au centre s'affrontent dans une joute sous le regard des dames énamourées. Et à droite, on se bat, une grande brassée de fleurs, les femmes défendent leur château en lançant des roses sur les assaillants qui leur renvoient avec un trébuchet. Et à droite, un amant parvient à enlever sa bien-aimée et fuit en bateau. Ce sont des thèmes allégoriques qui renvoient à la fois au roman de la Rose, mais aussi à des pratiques festives, des pratiques ordinaires de cette internationale chevaleresque qui fait en même temps l'amour et la guerre. Par exemple, la chronique de Rolandino de Padoue relate la guerre du Castello d'Amore qui s'est tenue à la cour de Trévise en 1214. Au départ, c'est une guerre pour rire. Enfin, du moins au début, hein, les dames, leurs servantes, lancent des fleurs, des parfums, des fruits, et le chroniqueur décrit ça d'abord comme une débauche de couleurs et de senteurs. Mais les jeunes hommes, bah, vous les connaissez, ils s'échauffent. Les Vénitiens et les Padouans veulent être les premiers à pénétrer dans le château. L'un de Padoue s'énerve, lacère l'étendard de Saint-Marc de Venise. Ça termine en bagarre, et l'année suivante, les deux cités finissent par faire la guerre. Donc, de cela aussi, de ce rapport entre l'amour et la guerre, les faces latérales du coffret qui figurent des scènes illustrant plus directement des épisodes du cycle de Graal, Lancelot, Gauvin, mais aussi sur le petit côté droit, le vaillant chevalier qui arrache une pucelle à l'homme sauvage, reprenant effectivement ce thème du rapport ambivalent entre la douceur et la sauvagerie. Sur la face avant sont représentés deux épisodes de l'histoire de Tristan et Iseult. L'un est très connu, hein, ce sont les deux amants qui se retrouvent épiés par le roi Marc, se donnant rendez-vous à la fontaine. Et l'autre est moins bien représenté. En fait, il est inspiré du Tristan en prose. C'est Tristan qui, chassé de Cornouailles et se languissant d'Iseult, revient à la cour du roi Marc. Mais vous voyez, il est déguisé en fou. Il a un grelot, il a une masse de fou, il a une capuche. Et puis surtout, il a rasé sa belle chevelure. Bon, voilà, c'est, disons, l'amour ouf, hein, il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir qu'en relisant Tristan et Iseult, Denis de Rougemont a établi cet autre roman de fondation de l'Occident qui lie le pouvoir combattant à la noblesse des sentiments et qui noue l'amour, la mort, la guerre en un sombre reflet des hantises de notre temps. Et ces hantises, elles figurent aussi sur l'autre face du coffre. Si on le retourne à présent, on voit à droite là deux scènes qui sont comme le pendant de la folie de Tristan, c'est la sagesse de Salomon. Alors le jugement de Salomon, hein, au départ, hein, ça on connaît, le juge muni d'un sceptre fleur-de-lysé qui arbitre entre deux fils qui se disputent son héritage, comment les départager? Eh bien, la deuxième interprétation est plus rare, elle est inspirée par un évangile apocryphe. Salomon dit que chacun tire une flèche dans le corps du père, ou plutôt dans son cadavre, qui est enveloppé ici dans son linceul, attaché à un arbre, et celui qui ne manque pas sa cible est en fait évidemment le fils adultère, et celui qui désobéit à l'ordre de Salomon est l'héritier légitime. Voilà qui exprime de manière troublante ce qui nous occupera aussi cette année, le désordre des pères ou la déroute de l'autorité. Or, la figure de l'autorité, au Moyen-Âge, c'est Aristote. Le voilà. Je vous préviens, il va dérouiller. De quoi Aristote est-il le nom au Moyen-Âge? On le sait, de la transmission, comme le disait Alain de Libera, du commentaire de la pensée du philosophe grec, fondement du système des savoirs arabo-latins enseigné à l'université. Oui, mais cet Aristote-là est doublé d'un personnage conceptuel, Deleuze, c'est-à-dire d'un double fictionnel qui se développe en même temps que les traductions l'arabe à partir des années 1180, qui se développe donc depuis le roman d'Alexandre de Bernay et ses différentes variantes. Le philosophe donc apparaît ici comme le précepteur d'Alexandre, le conquérant. Et par conséquent, sa figure s'assimile au clerc. Il faut se souvenir qu'avec l'essor des universités au XIIIe siècle, comme l'a montré Antoine d'Estaimbert, le maître s'apparente justement à un nouveau Salomon, dont la majesté peut être, comme ici, égratignée par une critique des pouvoirs du clerc, dont puisque ici, vous voyez que la chaire est la symétrique du trône. Parce que le vénérable précepteur enseignant au jeune souverain, évidemment, il est face à un souverain qui n'est pas n'importe quel souverain. Alexandre le Grand, il est, dans le roman d'Alexandre, le héros de l'illimité du pouvoir. Il s'aventure dans des étendues mystérieuses en une quête qui est aussi une enquête sur les bornes du monde, depuis le bleu du ciel où il va s'envoler jusqu'aux abysses où il est visité par les bathysphères. Tout est exploré, tout est expérimenté, y compris, bien sûr, les vertiges de l'amour, avec la rencontre de la princesse indienne Candace et de ses suivantes, les filles fleurs. Sauf que, à ce moment-là, c'est ce que décrit la scène, tout s'est arrêté, l'épopée est au point mort. Alexandre refuse d'avancer, il a croisé le chemin d'une jeune femme qui lui a fait chavirer le cœur, ses officiers veulent la poursuite des conquêtes, seulement voilà, ce qui peut faire obstacle au tout politique du pouvoir illimité, c'est ce petit souverain indiscipliné, en chacun de nous, l'insolent sexe roi. Voici donc son maître, Aristote, chargé par les généraux de le sermonner doctement sur ses devoirs de souverain. La jeune séductrice l'apprend. Elle est en danger, elle va se venger. Comment ? Eh bien, en séduisant le vénérable docteur, en lui faisant sortir le nez de ses livres, par une apparition printanière au jardin, un matin, en un affolant déshabillé, et le désir d'Aristote se réveille, au point qu'il se laisse chevaucher, et oui, par l'amour naissant. Il lui promet finalement d'intercéder en sa faveur, auprès du souverain, en échange, donc, l'amour. Le voilà en fâcheuse posture, humilié, c'est d'ailleurs au sens propre une humiliation publique, qui provoque, vous le voyez, le rire d'Alexandre, assistant à la scène, rire libérateur qui remet l'histoire en marche. Au fond, Aristote est comme Merlin, autre figure de la sagesse des marges, dans l'espace romanesque du Moyen-Âge et dans leurs matières respectives, matière de Rome pour Alexandre, matière de Bretagne pour Merlin, ils incarnent l'ambivalence entre l'omniscience et l'aveuglement. Il faut bien qu'ils s'égarent pour que l'aventure du savoir-pouvoir soit relancée. D'ailleurs, c'est un autre coffre en tout point semblable à celui de Cluny, et strictement contemporain, conservé à Londres, qui fait suivre les deux mêmes scènes, hein, vous voyez, Aristote et enseignant puis chevauchant Phyllis, par deux autres scènes où ridiculisant des vieillards concupiscents qui, parmi les boiteux et les infirmes, marchent péniblement, cassés en deux sur leurs cannes, vers la fontaine de jouvence, dont l'eau miraculeuse leur fait retrouver la fougue de leur jeunesse. Cette scène de Phyllis chevauchant Aristote a connu une grande formule, une grande fortune iconographique, depuis les marges des manuscrits où elle apparaît au XIIIe siècle, jusqu'aux sculptures des églises et des cloîtres, au XIVe et XVe siècle, et à la gravure et à la peinture occidentale, notamment dans l'espace germanique, au XVIe siècle. Et c'est elle, effectivement, que l'on retrouve sur un aquamanil, c'est-à-dire un récipient destiné à se laver les mains avant un repas, sacré ou profane. Et le repas est ici manifestement profane, puisque le petit robinet par lequel s'écoule l'eau, est en forme de coque, et que Wasser an, en allemand, désigne aussi le membre viril. Donc, c'est un objet de belle facture, en fait un alliage cuivreux de bon marché, ce n'est pas un objet de luxe des tables princières, et ça prouve effectivement, je dirais, la diffusion sociale du thème. D'ailleurs, on peut le rapprocher, comme le suggère le récent catalogue de l'exposition du Louvre sur les figures du fou, auquel j'emprunte ces images, on peut le rapprocher de cette plaque de poils qui provient de la forêt noire en Alsace, 1519, où Phyllis, vous voyez, tient le lion des philosophes en bride et le dompte à l'aide de son fouet, ou de cette gravure qui illustre le thème supposément effrayant du Weibermacht, le pouvoir des femmes, qui rend fou d'amour le savant dont la barbe et la chevelure le font représenter justement à l'homme sauvage qui ne peut plus fixer son regard. Et c'est d'ailleurs aussi le cas sur notre Aquamanil, où Phyllis tord la chevelure d'Aristote pour en faire une corde. Cette histoire, elle vient de ce que André Corbellori appelle un surgeon humoristique et fabliesque du roman d'Alexandre, qu'on appelle le lait d'Aristote, qui est un poème en forme de fabliau qui provient au fond de la littérature du débat du clerc et du chevalier, dont Joseph Bédier a voulu trouver, parce que c'était un fabliau, et vous vous souvenez peut-être de ce que je disais l'année dernière sur l'incapacité de cette première érudition philologique française à vouloir mettre les fabliaux dans le corpus d'une littérature nationale. Non, ça ne pouvait être que le reflet d'autre chose. Donc, pour Bédier, c'était des contes indiens, des contes arabes. En réalité, le lait d'Aristote, qui a été longtemps attribué à un clerc parisien, Henri Dandelli, a été réattribué en 2004 par Françoise Zufferet à Henri de Valenciennes, qui est un chroniqueur de la première moitié du XIIIe siècle, continuateur de l'histoire de la conquête de Constantinople de Geoffroy de Villehardouin. On connaît six témoins manuscrits de ce poème courtois, qui se termine en fait par une morale très convenue, hein. Amour est un bien puissant maître qui rend humble et obéissant l'homme le plus puissant du monde. Mais en fait, cette histoire, elle se raconte très vite au-delà du lait d'Aristote. Elle trouve son autonomie narrative, elle circule sous forme d'exemplats. On la trouve dès le XIIIe siècle parmi les sermons vulgaires de Jacques de Vitry chez Étienne de Bourbon. L'Aristote chevauché apparaît même dans la grande encyclopédie du XIIIe siècle de Brunetto Latini. À ce moment-là, une seule allusion suffit déjà à l'évoquer. Si on tourne un peu autour de l'objet, eh bien, on voit ce que... Là, par exemple, il y a un référent littéraire qui est très clair dans le lait d'Aristote. Sa tresse grosse, longue et blonde n'a pas desservi qu'on la tonde. On pourrait gloser sur cette tresse et sur l'art poétique de tresser des sens multiples autour d'une chevelure abondante et lascive, dont on dit étrangement qu'elle pourrait être tondue. Mais si vous vous souvenez effectivement du châtiment de la folie Tristan, vous voyez bien effectivement que la tonte, ici, est une manière de pousser l'amour fou jusqu'au bout. D'ailleurs, face à cette beauté lascive, on peut se poser la question de savoir comment Aristote, qui n'est pas une femme, donc sa nature n'est pas d'aimer, comment, au fond, il a pu spontanément retrouver l'art d'aimer comme une connaissance enfouie qu'on a déjà sans le savoir. C'est un très beau vers du lait d'Aristote qui le dit. « Vois la dame aller et venir, et cœur l'y met un souvenir tel que ses livres l'y fait clore. » C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est dans le livre du cœur qu'est clos cette connaissance étonnante. Alors, si on continue à tourner autour, on voit que, bien sûr, la posture, elle est suggestive. C'est pas seulement que Phyllis est une cavalière, qu'elle monte en Amazone, ce que Christine de Pizan appelle le prince des philosophes, et qu'elle évoque ici le souvenir des combattantes antiques, même si c'est évidemment assez intéressant que nous allons consacrer sans doute une séance à cette histoire genrée de la trifonctionnalité, qui combat, qui prie, qui travaille. Mais c'est pas seulement ça. C'est que cette manière de l'enfourcher suggère une position sexuelle, celle de l'ecuus eroticus, évoquant un acte contre nature. Michael Camille n'a trouvé aucune représentation médiévale de ce qui est si courant dans la peinture pompéienne et qui est massivement commenté justement dans le livre de Pascal Quignard, Le sexe et l'effroi. Les premières représentations explicites connues de cette position sexuelle, les Lecuus eroticus, elles datent de 1525, des maudits de Marc-Antonio Raimondi sur des dessins de Jules Romain, et qui fut emprisonné pour avoir diffusé de telles images. On a qu'une seule édition clandestine de 1527 de ces xylographies qui accompagnent des poèmes érotiques de l'Aretin. Pourquoi ? Parce que ce sont les prostituées qui s'adonnent à cette pratique luxurieuse, si l'on en croit les fabliaux. Cette pratique condamnée par les pères de l'Église, dénoncée par les pénitentiels, le décret de Gratien, parce que les médecins, à la suite d'Avicenne, prétendent que cette position sexuelle, donc la femme, se chevauche l'homme, empêche toute fécondation. C'est donc une position qui, pour l'Église, est contre nature. Si on tourne encore autour de l'aquamanil, pour satisfaire une curiosité bien légitime d'un de mes collègues, seulement motivée par la libido sciendi, je n'en doute pas, et qui me disait « Où se pose la main de la belle Phyllis ?» Eh bien, la réponse, c'est évidemment sur l'objet du déni, assurément, ou du déni, puisqu'il le désigne en même temps qu'il le cache. Dans le système des plaisirs et des peines qui prévaut au Moyen-Âge, l'equus eroticus est assimilé au crime sodomite. Non seulement parce qu'il est pareillement contre nature, mais parce qu'il est recodé selon la seule distinction qui vaille en matière de sexualité, celle qui oppose des rôles actifs, agens, et passifs, patiens. Par exemple, le système judiciaire punit toujours plus lourdement celui ou celle qui a un rôle actif dans l'acte, ce qui provoque des débats et des controverses parmi les juges, notamment à Florence au XVe siècle. Qui est actif dans une fellation, par exemple ? Ça va ? On est bien ? Bon. Et puisqu'on en est là, je me permets de vous rappeler une des scènes les plus surprenantes du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, celle où Marcellus Wallace et Butch Coolidge sont prisonniers dans un magasin d'armes à feu et violé sur un cheval d'arçon, justement, par le chef de la sécurité, le mystérieux Zed, joué par Peter Gwynne. Et ce dernier s'exclame alors « ce que vous avez sous les yeux » et ce qui donne, dans la version française, bien plus pudiquement « je vais te la jouer moyenâgeux ». L'exclamation est devenue proverbiale chez les médiévistes américains. Zrinka Stahuljak le cite dans l'article « Médiévalisme » de la très respectable nouvelle histoire du Moyen-Âge dirigée par Florian Mazel. Or, justement, toute la question, c'est de savoir à quel Moyen-Âge renvoie la locution, à celui des historiens de la période médiévale ou à celle des historiens des médiévalismes. Sans doute, le film de gangster remploie-t-il des thèmes courants du roman de chevalerie ? Et les parallèles abondent entre Pulp Fiction de Quentin Tarantino et Lancelot de Chrétien de Troyes. Dans les deux cas, les chevaliers célibataires veulent impressionner leurs souverains et leurs aînés par un usage vengeur de la violence et de l'art d'aimer. Le sexe du pouvoir y est obsessionnellement exhibé pour rétablir la paix de l'homosocialité. Mais le Moyen-Âge dont il est ici question, stade anal de la domination masculine, eh bien, celui brutal et frustre dont on craint le retour à chaque fois qu'un personnage exprime le désir d'en faire souffrir un autre. C'est celui, par exemple, touristique et enfantin des musées de la torture. Ainsi, de cette étrange trouvaille archéologique, mise à jour à l'été 2023, une équipe de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle qui fouillait en Galice, et plus précisément dans le Ria de Vigo, la Torre de Meira, une fortification du XIVe siècle, a été détruite en 1476 et on connaît précisément la date parce que c'est un moment de grande révolte dite de Irmandinha, au cours desquels il y a des soulèvements paysans contre la réaction nobiliaire suscitée par les crises, et donc une reprise épidémique, une guerre civile qui débouche sur la destruction de 130 châteaux seigneuriaux dans le roman de Galice, dans le royaume de Galice. Et là, dans la Torre de Meira, les archéologues ont trouvé, parmi les débris de céramique, les éclats de pierre, cet artefact dont la forme assez commune pour les temps préhistoriques est plus rare à l'époque médiévale. Cette pierre phallique, longue de 15 cm, présente des striures, des traces métalliques qui, d'après les premières analyses, évoqueraient une pierre à aiguiser. Donc là, on commence à être bien. Vous avez des seigneurs belliqueux qui passent des paysans révoltés au fil de l'épée dont ils affûtent le tranchant en le frottant sur un pénis de pierre. Voilà, assurément, qui ne dément pas un imaginaire prépubère d'une masculinité somme toute assez navrante. Et voilà pourquoi je m'en voudrais vraiment de vous laisser sur cette image. Nous n'avons pas appris à rire du gouvernement priapique pour nous laisser fasciner par si peu. Donc, encore quelques minutes, deux, noir, rideau, et puis, reconnaissons-le, est-on certain qu'il faille s'aventurer jusqu'au Moyen-Âge pour voir des images aussi grossières du sexe du pouvoir? Il suffit malheureusement d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, ce que l'on cherchera cette année, ce n'est assurément pas de chevaucher le passé pour partir en quête de nos hontes primitives, quelque chose comme nous, empire. On verra, je crois, bien plus et bien mieux. On verra des eunuques, des hommes qui font les femmes, des genres fluides, du pouvoir au féminin. Et dès la semaine prochaine, nous partirons en quête de l'anthropologie chrétienne du désordre des pères. Et c'est sur cette puissance joyeuse de renversement que nous offre l'histoire que je voudrais terminer. Est-ce que cette puissance de renversement sera un refuge suffisant? J'avoue que je me pose la question. Nous ne sommes nulle part sains et saufs, et certainement pas dans le passé. Si l'on y va, au passé, ce n'est pas pour trouver refuge, mais pour y traquer le trésor inépuisable de ces ambivalences, quand tout autour de nous parle le langage agressif et sommaire de pouvoir qui, pour jouer du rouage du grotesque, n'en déclenche pas moins des machines meurtrières. Et là, point besoin d'aller chercher dans House of Cards ou dans Pulp Fiction, inutile de se la jouer moyenâgeux, le plus brutal, le plus stupide, le plus dangereux est déjà là. Au lendemain de la nouvelle victoire électorale de Donald Trump, ses partisans célébrèrent leur triomphe par un cri de ralliement masculiniste qui envahit les réseaux « Your body, my choice ». En quatre mots, tout est justifié. La culture du viol, l'esclavage, le racisme, la violence. Your body, my choice. Quatre mots pour renverser le beau slogan féministe « Notre corps, nous-mêmes ». Quatre mots et tout est saccagé. Alors ça recommence. Comme avec les fictions politiques en 2017, où j'avais aussi accompagné la première élection de Trump, comme avec la peste, les hantises du présent viennent faire effraction dans le passé historique. Et moi qui pensais naïvement que j'allais pouvoir développer tranquillement cette année la poursuite de mes politiques de l'amour, disons sa version pour adultes consentants, on va tenter. Mais vous comprenez mieux sans doute ma réticence, voilà maintenant une heure, à aborder le thème de cette année que l'actualité, une fois encore, assombrit d'une obscure clarté. Le sexe du pouvoir. Imaginez par exemple quelqu'un à qui il prendrait l'envie de composer une histoire mondiale de la France ou de la prolonger au-delà de son point d'arrêt qui est fixé aujourd'hui au 11 janvier 2015. Il lui faudrait considérer qu'en 2024, le nombre de journalistes étrangers accrédités en France a atteint 3 fois un niveau record. Durant les Jeux Olympiques, à l'occasion de la reconstruction de Notre-Dame, mais aussi pour couvrir les viols de Mazan. Nous en sommes là. Le sexe du pouvoir est aussi là. Alors on va tenter d'y aller voir, car même si cela ne suffit pas, il nous est difficile de croire qu'on peut agir sur le monde sans chercher à le comprendre. Et puis, franchement, je suis heureux de mener ça avec vous. Et puis une dernière chose pour la route, je voudrais vous faire une confidence. En fait, au moment précis où un cours s'arrête, on est content. On connaît un moment de soulagement qui dure environ 5 minutes. À la 6e vient ce sentiment mêlé de désir, on a envie que ça recommence, et de crainte, on a peur que ça recommence. Et cette angoisse se nourrit aussi à la 7e minute du regret de tout ce qu'on n'a pas pu dire. Par exemple, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici même le 2 avril 2024, à 12h07, j'achevais la leçon sur la fin de l'amour avec Marguerite de Navarre et le livre que Lucien Febvre lui a consacré, « Amour sacré et amour profane ». Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous lire les lignes de son introduction qui m'avait amené à ce livre et que j'avais envie de vous dire. Et depuis, ça m'a obsédé. Alors, si vous le voulez bien, les voici. Juste pour vous dire que cette année encore, et cette année particulièrement, si l'on se souvient de la chanson de Pierre Perret, tout, 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 vous saurez tous, hein, je tâcherai de ne pas être complet. On ne saura pas tout. Voilà ce que dit Lucien Febvre au début de son livre. Voilà ce que j'aurais dû vous dire il y a un an. Quand j'étais petit garçon, il y a bien longtemps, nos maîtres proposaient à nos ardeurs de splendides sujets de composition. Dites tout ce que vous savez sur Charlemagne ou sur le calcaire. Et bien qu'on ne cherche pas dans ce petit livre une réponse à si magnifiques questions, on serait déçu. Je refuse de composer en histoire une fois de plus, d'être complet. Complet, ce beau mot d'enfant ou de vieux savant, c'est tout un. Je ne serai pas complet. Je voudrais juste, une fois de plus, comprendre et faire comprendre. Je vous remercie. À la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.